Lecture de l'enseignement du site Foi, Espérance et Vie par la Sœur du Net. Aujourd'hui, troisième partie de notre série d'enseignements, Quand Dieu n'est pas responsable, tu es le responsable de ta destinée suite à. Choisis la vie et la bénédiction. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que certaines choses ne t'arrivent pas parce que tu les demandes dans le vide. Tu ne sais pas tout ce qui s'attache à ce que tu demandes à Dieu, au choix même de la vie et de la bénédiction. Bien-aimé, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, sa joie ineffable, sa grande et enrichissante grâce et la communion du Saint-Esprit soient ton partage ce jour au nom puissant de Jésus. Les paroles que tu liras dans les lignes qui suivent te préparent à la visitation divine maintenant et dans la suite du temps. Je te signale déjà que ta lecture d'aujourd'hui sera très longue et tu entendras des choses qui seront peut-être désagréables à tes oreilles, mais tu n'auras pas de choix si tu veux vivre la visitation de Dieu dans ta vie. Quelque chose doit se décanter dans ta vie. Je te dis déjà que je te considère, toi qui lis les enseignements, consulte les prières et les ressources de ce site comme faisant partie de ma famille. Aujourd'hui, c'est à minuit que mon sommeil s'est arrêté. Et une fois que je me réveille, le Saint-Esprit commence déjà à me parler des choses que je vais partager avec toi. En fait, lorsque Dieu me réveille chaque matin, il met déjà une impression dans mon cœur. Et c'est ce que je vais te transmettre comme pensée avec les saintes écritures qui vont avec. C'est ce qui fait la différence entre la parole de Dieu diffusée sur le site Foi, Espérance et Vie et ailleurs. Nous ne copions pas nos anciens enseignements, bien qu'il y en a beaucoup. Même si nous avons déjà parlé d'un sujet, le Saint-Esprit nous l'actualisera pour nous afin qu'une personne quelque part, pour ce cas toi qui es en train de me lire, soit touchée et bénie. Cela n'est pas l'affaire d'un homme, mais de Dieu. Et lorsqu'il s'agit de Dieu, il est écrit que ses paroles sont la vie pour ceux qui les trouvent, la santé pour tout le corps. Proverbe 4, versets 20 à 22. C'est ce qui justifie que les gens soient guéris, rien qu'en lisant ou en écoutant la parole de Dieu. Ils éprouvent de la joie et du plaisir à lire la parole chaque jour sans se lasser. Et surtout, s'ils aiment Dieu et ne se laissent pas influencer par l'ennemi. Et le bien encore avec la parole de Dieu est qu'elle ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Ésaïe 55, verset 11. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, tu t'exposes à vivre ce qu'elle dit. Tu t'exposes à l'exécution de la volonté de Dieu et de l'accomplissement de ses desseins dans ta vie. La parole de Dieu est la lumière. Lorsqu'elle entre dans la vie d'une personne, les ténèbres se dissipent d'elles-mêmes. Il y a des choses que Dieu nous donne tout simplement lorsque nous recevons sa parole de tout notre cœur. D'où l'ennemi nous apporte toute forme de distraction et vient voler cette parole, comme nous dit la Bible en Marc 4, verset 14. Je vais y revenir. La parole de Dieu, qu'elle soit prêchée, lue, méditée, elle est toujours accompagnée de la puissance de Dieu qui trouve toujours quelque chose à accomplir dans notre vie. La Bible nous parle par exemple de lorsque le Seigneur Jésus était en train d'enseigner. Il enseignait seulement, il n'avait pas encore commencé à prier pour les malades. Mais comme la maladie représente la mort, alors que la parole est la vie va engloutir cette mort et cela résultera en des guérisons miraculeuses. Comme la maladie représente les ténèbres et que la parole est la lumière, les ténèbres vont se dissiper et la guérison s'installera. C'est ce qui s'était passé dans Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance de la parole de Dieu agit automatiquement dans la vie de ceux qui l'écoutent et leur accorde ce qu'ils désirent, même s'ils ne l'ont pas demandé. Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est un mystère. C'est pour cela que je demande toujours à ceux qui m'écrivent pour un problème ou un autre de commencer juste à suivre les enseignements. Ceux qui reçoivent et pratiquent cette orientation reviennent toujours avec des témoignages. Rien ne peut changer un homme comme la parole de Dieu. Dans Hébreux 1, verset 3, nous apprenons que rien ne peut nous soutenir puissamment comme la parole de Dieu. Dieu soutient toutes choses, y compris nos vies, par sa parole toute puissante. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Nous sommes en train de parler de la responsabilité face à notre destinée. Dans la partie précédente, nous avons vu la part de responsabilité que l'homme avait dans le jardin d'Éden. Dans cette partie, nous verrons la part du peuple de Dieu alors qu'il était délivré de l'esclavage d'Égypte, traversait le désert et qu'il entrait dans la terre promise. Il est écrit en Deutéronome 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Depuis hier, je savais que ceci allait être la suite de la partie précédente, le choix de la vie. Dieu m'a dit que nous ne pouvons pas choisir la vie sans premièrement le choisir lui. Le choix de la vie est tout. Premièrement, le choix de Dieu. Souvent, lorsque nous lisons ce passage, nous nous arrêtons là. Dans la partie précédente, nous avions vu que Dieu avait planté un jardin en Éden. Il y avait l'arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Mais ici, alors que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Dieu ne plante pas l'arbre de la vie et de la mort, ni celui de la bénédiction et de la malédiction. Mais Dieu les met devant l'homme. Comme je disais, choisir la vie, c'est choisir Dieu. Que nous dit la suite de ce passage, le verset 20 ? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Pour qu'Adam puisse demeurer en Éden, vivre en Éden, la condition était de ne pas manger aux fruits de l'arbre du bien et du mal. Mais ici, pour que les enfants d'Israël puissent demeurer dans le pays que Dieu avait promis à leur père, les conditions étaient de choisir la vie et la bénédiction. Et ce choix voulait tout simplement dire, premièrement, aimer Dieu, deuxièmement, obéir à sa voix, et troisièmement, s'attacher à lui. Sans ces trois choses, nous ne pourrons jamais jouir de la vie. Il ne suffit pas de se dire que « je choisis la vie ». Ce choix est conditionné par l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Cet amour nous poussera à obéir à Dieu sans réserve et à nous attacher à lui. Lorsque nous remplissons ces trois conditions, nous aurons accès à la vie et à la prolongation de nos jours. Il ne suffit pas seulement de vivre. La vie n'est pas le synonyme de la longévité. C'est notre amour pour Dieu, notre obéissance et notre attachement à lui qui feront que nous puissions prolonger nos jours. Je vais donner ici l'exemple de Daniel et de ses compagnons. Ces derniers aimaient Dieu et cet amour pour Dieu a fait qu'ils lui obéissent et s'attachent à lui, au point où ils étaient exposés à la mort. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, ses trois compagnons dans la fournaise ardente, Daniel 3 et 6. Ces épreuves pouvaient mettre fin à leur vie et arrêter leurs jours, mais Dieu est allé les protéger dans la fosse aux lions et dans cette fournaise ardente, qui en plus était réchauffée 7 fois de plus que d'habitude, au point où ceux qui allaient les jeter ont été les seuls à être consumés en premier, parce que Dieu avait réalisé la promesse, celle de prolonger les jours de ses enfants. Les lions n'ont pas pu mettre fin aux jours de Daniel, la fournaise ardente n'a pas pu mettre fin au jour des trois amis de Daniel. Ceci me rappelle ce que Dieu dit dans Daniel 43, versets 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, plutôt Genèse, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, si tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Essayons de voir en bref ces trois conditions pour choisir la vie. Premièrement, aimer Dieu. Que nous dit la Bible sur l'amour de Dieu ? Pour faire bref, je dirais qu'aimer Dieu est le tout premier et même le plus grand commandement de la loi de Dieu. Lisons cela dans Matthieu 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Lorsque nous parlons du cœur, de l'âme et de la pensée, en même temps c'est pour dire tout simplement de tout ton être. Deuxièmement, obéir à Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, obéir sera une conséquence directe. Il est impossible d'obéir à Dieu sans au préalable l'aimer. N'oublions pas qu'à la vie est attachée aussi la bénédiction. Mais celle-ci ne viendra jamais sur nous si nous n'obéissons pas à Dieu. Plusieurs aiment Dieu mais ne sont pas prompts à obéir à Dieu. La désobéissance à Dieu fausse notre amour pour Dieu. Étant donné que Dieu nous bénit, nous visite beaucoup plus en nous instruisant. Notre désobéissance est donc ce qui bloque notre vie. Plusieurs tournent en rond, ne voient rien de la main de Dieu, n'entendent même plus la voix de Dieu, parce qu'il y a une désobéissance quelque part. Souvenons-nous de Deutéronome 28. Il est écrit du verset 1 à 8, tu peux lire jusqu'au verset 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tant que tu ne feras pas ce que Dieu te demande de faire, tu ne verras pas non plus ces bénédictions dans ta vie. Tu peux avoir beau prier ou beau jeûner, mais cela sera en vain. Souviens-toi toujours, dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Ensuite, s'attacher à Dieu. C'est la démonstration de l'amour et de l'obéissance que nous avons pour Dieu. C'est la combinaison de deux. Lorsque nous aimons et obéissons à Dieu, automatiquement, nous allons nous attacher à Dieu. Deutéronome 10, verset 20 nous dit « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. » L'attachement à Dieu est une dimension supérieure à celle de l'amour et de l'obéissance, qui fait que nous soyons sensibles aux choses qui concernent Dieu et sa maison. Ce n'est pas du superficiel comme l'amour que nous avons aujourd'hui pour Dieu basé sur ce que nous voulons obtenir de sa part. Mais celui qui s'attache à Dieu est celui qui veut que l'œuvre de Dieu avance. Nous savons tous que David aimait tellement Dieu qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutons ce que David dit dans 1 Chronique 29, versets 1 à 5. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Notre attachement à Dieu nous pousse à faire plus pour Dieu, à ne pas rester indifférent à l'œuvre de Dieu. David dit « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. » À quoi mets-tu tes forces? À préparer ta retraite? À épargner pour l'avenir de tes enfants? Hier, une de mes bien-aimées en France qui venait de lire la première partie de cet enseignement me dit que j'étais révoltée par mes écrits. Je lui ai dit que ce ne sont pas mes paroles. Je n'écris que ce que Dieu met dans mon cœur. Qui suis-je moi pour dire quelque chose de moi-même? Lorsqu'on parle de la maison de Dieu, il ne s'agit pas d'une maison physique, mais de l'avancement de son œuvre en général. Alors je te pose la question, quelle est la preuve de ton attachement à Dieu? Que donnes-tu ou qu'as-tu déjà donné pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu y penses d'ailleurs? N'allons pas loin, puisque nous parlons de l'œuvre de Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est-à-dire que tu fais partie de foi, espérance et vie, si tu es une nouvelle personne, gloire à Dieu. As-tu déjà même fait une petite offrande à Dieu pour l'avancement de cette œuvre? Es-tu sensible aux besoins que nous avons? Plusieurs ne s'imaginent pas que nous devons avoir un bureau, des ordinateurs, des équipements pour l'enregistrement ou l'électricité en permanence, la connexion Internet, etc. Qui y pense? Dieu m'a dit de t'en parler parce que l'année prochaine, ce sera la course pour briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. L'on ne peut pas enseigner la justice à la multitude sans argent. Nous devons commencer une émission télévisée dans une chaîne locale et la même émission sera émise sur YouTube. Dieu de près, Dieu de loin. Qui peut prendre en charge la production de cette émission? Voilà des domaines dans lesquels nous pouvons ou devons démontrer notre attachement à Dieu. Note que dans tous ces trois points, le dénominateur commun est le verbe donner. Je ne parle pas de donner juste comme un sacrifice, mais plutôt comme l'expression de ton amour, de ton obéissance et de ton attachement à Dieu. Nous venons de voir ce que David avait préparé et donné à cause de son attachement à la maison de Dieu. Parlant d'aimer Dieu, il est écrit que Salomon aimait Dieu. Et pour cela, il avait offert 1000 holocaustes à Dieu. Lisons cela dans 1 roi 3, versets 3 à 5. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Alléluia. Plusieurs personnes ne vivent pas les miracles de Dieu tout simplement parce qu'elles ne donnent pas à Dieu. J'étais content hier. Une de mes mamans à Londres me dira qu'elle arrête d'envoyer toutes les bêtes publications sans vie que plusieurs se partagent sur les réseaux sociaux et surtout sur WhatsApp. Il y a des gens qui disent que Dieu te donne la sagesse de Salomon, la patience de Job. Ce ne sont pas des slogans, des fables. Ces gens-là ont fait quelque chose pour recevoir ce que Dieu leur avait donné. Parlons du sacrifice, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup pour donner à Dieu. La pauvre veuve de Sarepta, qui pourtant était censée nourrir l'homme de Dieu pendant la famine, la Bible dit qu'elle n'avait qu'une poignée de farine et une petite quantité d'huile avec lesquelles elle pouvait préparer leur dernier gâteau, manger et mourir. 1 roi 17, verset 12. Le sacrifice leur a demandé d'avoir la foi, de faire d'abord pour le serviteur de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui pense au moins au bien-être de la personne qui les enseigne et qui met à sa disposition autant de ressources spirituelles et en plus gratuitement et à ta disposition? Elle est là pour Dieu et pour paître son troupeau, presque 24 heures sur 24, est toujours disponible et prêt à répondre à toutes les demandes qu'elle reçoit. Si cette veuve devait attendre 1000 holocaustes pour donner, elle n'allait pas les avoir. Mais le peu qu'elle avait était suffisant pour déclencher son miracle. Dieu est-il insensé pour demander à une veuve qui n'a que son dernier repas de nourrir son serviteur? Qu'est-ce qui est mieux? Préparer son dernier repas, le manger et mourir, ou préparer son repas, le donner à l'homme de Dieu et puis vivre? Parlons de l'obéissance d'Abraham. En quoi cela avait-il consisté? Pourquoi Abraham était-il si béni jusqu'à présent? Jouissons-nous tous de la bénédiction d'Abraham. Abraham devait obéir à Dieu en lui redonnant son fils Isaac, enfant de la promesse qu'il aimait tant et qu'il a attendu pendant 25 ans de marche avec Dieu pour l'avoir. Imagines-tu? Lisons un peu cela dans Genèse 22, versets 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Versets 11 à 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Comme conséquence, les versets 15 à 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Nous cherchons tous d'une manière ou d'une autre que Dieu nous bénisse. Combien de fois refusons-nous de donner à Dieu? Combien de fois disons-nous que c'est tout ce qui me reste? Décembre 2016, nous prions que Dieu nous visite. Mais comment allons-nous provoquer sa bénédiction? Pourrions-nous donner à Dieu plus que ce que nous dépenserons pour les sapins, les cotillons et les cadeaux de fin d'année? J'espère que certains penseront au site Foi, Espérance et Vie durant la saison des fêtes. Dieu est en train de visiter son peuple, mais ce temps de la fin est caractérisé par l'égoïsme. comment allons-nous atteindre les extrémités de la terre si nous sommes égoïstes? Nous venons faire des prières pour nous-mêmes. Nous ne pensons jamais à intercéder pour les autres, pour le salut des âmes. Dieu veut nous visiter, il tient à nous visiter, mais sur la base de quoi le fera-t-il? Je t'assure que je vais t'obliger pour une fois de faire une offrande sacrificielle à Dieu pour son œuvre à travers ce site. Nous avons des projets pour cette fin d'année 2016-2017 jusqu'à la suite. Je prie que tu ne passes pas à côté de ta bénédiction. Si tu as lu cette partie de l'enseignement, c'est-à-dire que Dieu veut te visiter. Fais un pas de foi et que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie au nom puissant de Jésus. Si certaines bonnes choses ne t'arrivent pas, les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ta vie, sache-le que Dieu n'est pas le responsable. C'est toi-même qui es responsable des choses que tu vis. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit de ce que tu viens de lire, car c'est un choix qui doit être fait. Choisir la vie et la bénédiction implique aimer Dieu, obéir à Dieu, s'attacher à Dieu. Et cela fait que nous puissions jouir de la vie et de prolonger nos jours. Dieu a mis devant nous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Cependant, ce n'est pas lui qui est responsable de choisir pour nous. Puisqu'il nous aime, il nous suggère de choisir la vie. Quel est donc ton choix? Tout ce que tu vivras, la suite de ta vie, ne sera jamais la faute de Dieu, mais ce sera le résultat de tes choix. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tes choix d'hier. Et ce que tu seras demain, c'est le résultat du choix que tu feras aujourd'hui. Que Dieu nous donne l'intelligence au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole à suivre. Si tu es béni par cette partie de l'enseignement, n'hésite pas à la partager. Merci de parler du site Foi, Espérance et Vie à vos proches. Merci de participer à tous les projets, car Dieu veut nous visiter. À très bientôt. C'était la lecture de l'enseignement du site Foi, Espérance et Vie par la sœur Dunette. Pour plus d'exhortations, prières, déclarations de foi, témoignages ou d'autres ressources spirituelles, rendez-vous sur notre site Foi, Espérance et Vie sur www.wbbministries.org. Vous pouvez nous contacter par email wisdombokongu@gmail.com, par WhatsApp +243 81 223 56 53 ou direct +243 82 65 67 399. Si Dieu vous met à cœur de soutenir cette œuvre merveilleuse, n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.